Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Odo Radio. Odo Radio, la radio des Hautes-Garonne. Voilà, j'allais presque en bafouiller juste au moment où je regardais dehors. Voilà, c'est pas le beau climat, mais voilà, il fait bon et on essaie de vous envoyer de bonnes vibrations, de la chaleur. Ravi de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine en ce qui concerne le journal, bien sûr. Hein, Odo Radio, ce sont des émissions le soir, le week-end. Voilà, et juste avant de vous présenter le sommaire de ce journal en ce vendredi 6 mars, hein, quelques petits rappels. Important. Je le rappelle également, ce sont des prérogatives de l'ARCOM de sigler tous les quarts d'heure. Donc voilà, Odo Radio, la bande FM 91.3. Vous pouvez nous suivre via notre site odoradio.fr, voilà, qui vous permet notamment, entre autres, de pouvoir télécharger, voire écouter toutes nos émissions. C'est un service qui plus est gratuit. Et troisième moyen pour nous suivre, c'est le DAB ou DAB+. Là, je vous laisse le soin de prononcer comme vous voulez cet acronyme in English in the text, voilà, qui signifie la radio et numérique terrestre. Donc trois moyens pour nous suivre. Allez, tout de suite le sommaire de ce journal. Voilà, exceptionnellement, il ne va pas y avoir de brève, pas d'invité, mais on va revenir sur un reportage réalisé par notre grand ami Fred. Coucou Fred. Voilà, autour d'actions qui ont été menées par le comité de quartier Ariane Sarrière à ce nom. Voilà, on va écouter ce reportage d'ici quelques instants. Pour la partie musicale, bien Odo Radio est partenaire de plusieurs concerts. Ça ne veut pas dire qu'on occulte, bien sûr, les autres événements, mais parmi les concerts que l'on va remettre en avant aujourd'hui, on a reçu des artistes, des organisateurs, et bien c'est le concert de demain samedi 7 mars, la Bad Escale, voilà, je la prononce mi-français mi-anglais, mais au moins on me comprend, enfin j'espère, voilà, avec cette soirée à sortie 13 à Pessac, donc demain 19h pour l'ouverture des portes, 20h pour le début du concert. Vous aurez deux groupes bordelais, Fastlane qui officie dans le skate punk, voilà, si ça existe, Dancing Twice qu'on salue, c'est de l'emo scrimo, voilà, pareil, là également je cite, et là on écoutera Mirabel, ce groupe parisien qui officie dans le heavy pop punk. Voilà, en fonction des minutes ou des secondes qui me resteront, eh bien je vous donnerai quelques infos sur la partie agenda. Et comme tous les vendredis, on va retrouver le magazine juridique et social Défendez-vous, présenté et réalisé par Maître Paul Cessot. On aurait dû avoir un nouveau magazine, mais voilà, Paul s'en excuse. Voilà, avec son métier d'avocat, eh bien, il n'a pas eu le temps de nous programmer, enregistrer une nouvelle émission. Donc on reviendra sur celle déjà diffusée qui portait comme thématique droit disciplinaire en droit du travail en entreprise. Voilà, et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Car comme vous le savez, Odo Radio soutient les engagements citoyens et les initiatives visant à améliorer le vivre ensemble. Et aujourd'hui, c'est un reportage réalisé par Fred, voilà, qui venant clôturer l'une de ces actions menées par le comité de quartier Ariane Sarrière de ce nom, que nous vous proposons tout de suite. Allez, on écoute.
Pour commencer l'année 2026 avec les bonnes résolutions, le comité de quartier Ariane Sarrière de ce nom, présidé par Inda Nadawi, a développé un partenariat avec les apprenants en réflexologie du centre MDS Formation basé à Oudon en Loire-Atlantique. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre de la fin de formation des nouveaux praticiens, proposant ainsi chaque samedi des séances aux adhérents du comité de quartier jusqu'à fin février. Ces derniers auront pu découvrir ou redécouvrir quatre techniques de réflexologie. La réflexologie plantaire, la plus connue du grand public, la réflexologie palmaire, la réflexologie faciale d'Yen Shan, et la réflexologie crânio-faciale. Pour Inda, l'idée était bien d'apporter une activité de bien-être en complément aux séances de relaxation et de gestion du stress déjà proposées et animées par Samia Rian, également infirmière anesthésiste et naturopathe. En cette fin de partenariat, Inda nous fait part de son retour d'expérience.
Quels sont les retours que vous avez de vos bénéficiaires ?
Alors, de très bons retours. Les gens sont très contents. Déjà pour la première, ce sont des découvertes, ils n'ont jamais connu ça. Et vraiment, ils sont tous contents. Et d'ailleurs, ils reviennent tous les samedis.
Est-ce que ça vous a apporté une plus-value pour votre comité de quartier ?
Alors, il y a des personnes qui sont venues grâce à Odo Radio, à l'écoute. Il y a des personnes qui sont venues sur fréquence, voilà. Après sur les réseaux sociaux, voilà, s'il y en a des gens qui sont pas de ce nom, qui viennent d'extérieur de ce nom et qu'ils ont découvert le comité, le bienfait qu'on fait aux habitants du quartier et au-delà de notre quartier. Voilà. Et bien sûr, c'est toujours dans le bien-être. Puisque ben, il y avait des personnes qui ne venaient pas du tout au comité de quartier. Et justement, avoir intégré la réflexologie, eh bien, ils viennent. Voilà, donc c'est bien. C'est un plus pour le comité, oui.
La réflexologie est encore mal connue en France et on le constate à l'échelle du quartier Ariane-Sarrière. Techniques de massage, magnétisme, les amalgames sont nombreux et donnent parfois des images erronées de cette pratique pourtant vieille de plusieurs milliers d'années. Au-delà du bien-être ressenti par les bénéficiaires, c'est pour certains une véritable découverte ou redécouverte, comme en témoignent Sofiane, Belkacem ou encore Maïté.
Vous avez testé plusieurs techniques. Est-ce qu'il y en a une qui a été plus bénéfique pour vous qu'une autre ?
Alors, j'ai testé le visage, oui, mais j'appréciais plus au niveau plantaire.
Et est-ce que vous recommanderiez la réflexologie à des personnes qui, comme vous, avant ne connaissent pas ?
Oui, totalement. Honnêtement, c'est un lâcher-prise total.
Alors, est-ce que vous connaissiez la réflexologie avant de venir au comité de quartier ?
Non, pas intéressant.
Quels sont les bienfaits que vous avez pu ressentir ?
Ben, je sentir ça va mieux pour moi.
Donc plus relaxé, plus détendu ?
Oui, les deux.
Alors, vous avez fait partie des bénéficiaires de ces prestations de réflexologie. Est-ce que vous connaissiez la réflexologie avant de venir à ces séances proposées par le comité de quartier ?
Alors, pas du tout. Je l'ai découvert par le biais de l'association. Et bon, j'ai participé au départ avec un petit peu d'appréhension et en même temps de la découverte aussi. Parce que bon, je ne voyais pas... Je ne voyais pas trop le bienfait que ça allait me donner. Et bon, malgré tout, j'en suis vraiment très contente. Le praticien, bon, vraiment quelque chose d'extraordinaire, très à l'écoute, très délicat. Je ne sais pas comment vous exprimer tout ça, mais sincèrement, bon, en tout cas, j'ai découvert quelque chose de fort et ça a complété un petit peu mes séances de kiné que j'étais en train de faire. Et pour moi, les deux peuvent se rejoindre parce que le kiné, c'est une chose. Mais la réflexologie, c'est un plus qu'on nous donne. Et je sais que moi, personnellement, j'ai appris aussi à me détendre. Et ça nous apprend à se détendre et en même temps à connaître son corps. Et à faire le lien avec le praticien en même temps. J'ai eu l'impression que la connexion se faisait entre les deux. Et puis bon, voilà, j'en suis vraiment très satisfaite. Et puis en tout cas, quelque chose de très délicat. Et puis je pense qu'il a beaucoup de patience, aussi. Parce que bon, il a fallu qu'on fasse un petit peu connaissance. Et c'est important aussi pour démarrer toutes les séances. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Mais j'espère que d'autres personnes pourront en bénéficier. Parce que c'est vrai que ça peut aider, même moralement, physiquement, ça c'est sûr que ça aide. Mais moralement aussi, et puis ça nous apprend à être attentifs. Je sais pas, plein de choses et quoi.
Si la réflexologie a pu être une totale découverte pour certains, d'autres en revanche en avaient déjà des notions, comme l'évoque Samia.
Oui, j'avais déjà des notions sur la réflexologie, oui. Je suis venue notamment pour vraiment à lâcher prise et pour une détente et une relaxation. C'est ce que je cherchais. Et je suis revenue parce que j'ai vraiment apprécié ces séances de détente et de relaxation post-séance.
Est-ce que vous savez que la réflexologie peut aussi être présente dans l'accompagnement?
Oui, tout à fait, bien sûr. Je sais que ça s'intègre notamment dans un accompagnement plus long, plusieurs séances, et permet aussi de connaître la personne pour justement amener cette détente, ce bien-être qui perdure même au-delà des séances.
Ce qu'il faut bien entendre, c'est que les séances de réflexologie proposées dans le cadre de ce partenariat avaient vocation de relaxation. Comprenons bien que la réflexologie, dans sa logique d'accompagnement, n'est pas une succession de massages de bien-être, mais bien un suivi visant à stimuler l'autorégulation de certains organes ou systèmes par acupression sur des points ou des zones spécifiques. La réflexologie ne se substitue pas au suivi et ou aux traitements médicaux, mais vient l'accompagner, notamment pour des troubles du sommeil, troubles digestifs, anxiété, stress et tant d'autres dysfonctionnements. Mais si le comité de quartier semble pleinement satisfait de ces séances, qu'en est-il des intervenantes qui ont mis leur temps et leurs compétences au service des adhérents? Pour le savoir, j'ai laissé la parole à Élodie, venue tout droit de Charente-Maritime, et à Victoria, venue, elle, d'Oléron, et qui nous apporte son analyse par téléphone. Elle commence à nous parler de ce qui les a motivés à participer à ce partenariat.
Je sais que ce que j'avais envie d'apporter, c'était déjà mettre les gens à l'aise, leur apporter un sourire, les rassurer et leur proposer une prestation de qualité, de bien-être. Donc j'espère que j'ai pu apporter ceci à ces moments-là.
Alors ça a été une opportunité très intéressante pour moi dans le cadre de ma fin de formation pour pratiquer sur d'autres personnes, d'autres profils autres que nos proches. Et cette possibilité, alors oui, effectivement, c'était un petit peu plus loin que chez moi, en Charente-Maritime, mais je suis très heureuse d'avoir fait ces centaines de kilomètres pour pouvoir pratiquer sur des profils parfaitement différents, variés, et c'était très enrichissant pour ma pratique et puis pour pouvoir me lancer dans mon cabinet, etc.
Quand on les interroge sur la connaissance qu'ont les bénéficiaires de la réflexologie, le ressenti est sensiblement le même.
Vous avez eu beaucoup de personnes qui découvrent la réflexologie avec vous?
Oui, toutes les personnes que j'ai pu, auxquelles j'ai pu pratiquer ne connaissaient pas la réflexologie. Ou on avait juste entendu parler.
C'est compliqué de leur faire découvrir une technique qui n'est pas forcément dans la coutume ou dans la culture de la personne.
Alors je n'ai pas trouvé, parce que toutes les personnes qui sont venues étaient volontaires. Du coup, ils se prêtaient au jeu. Donc ils choisissaient quand même une pratique qui leur semblait être la plus commune. Et ils étaient généralement agréablement surpris.
Les personnes qui sont venues vous voir connaissaient la réflexologie avant d'arriver vous voir?
Très peu. Honnêtement, je pense que sur les 100%, on est sur 5% des personnes qui connaissaient la réflexologie.
Oui, effectivement. Donc c'était
C'est très souvent assimilé à du massage, en fait, et ça l'est pas.
On disait juste il y a quelques instants que la réflexologie était très mal connue en France, très peu connue en France. Est-ce que le peu qui connaissent la connaissent bien?
Alors, il y a énormément de courants, donc il y a des personnes qui vont la connaître, mais qui vont la connaître que sur un seul pan de la réflexologie. Mm-hmm. Souvent, c'est le pan plantaire. Dès qu'on parle de réflexologie, c'est « Ah, j'adore me faire toucher les pieds !» C'est très souvent ce qui ressort. La réflexologie, c'est pas que ça, bien loin de là. On va pouvoir travailler, oui, effectivement, sur les pieds, hein, en réflexologie plantaire, mais il y a d'autres techniques, et ces techniques-là, il ne faut pas les mettre de côté, parce qu'elles ont, des grandes capacités de régulation qui sont vraiment très intéressantes en pratique.
D'un point de vue technique, chaque praticien et chaque praticienne a sa sensibilité. Nos intervenantes nous expliquent. Quelle technique pourriez-vous dire qu'elle vous représente le mieux, vous ?
Alors aujourd'hui, j'ai pas choisi de technique particulière. Je dirais que celle que j'aime un petit peu le mieux, c'est la plantaire, parce que je la pratique plus. Je trouve que me paraît aussi très intéressante dans le quotidien des gens.
Alors moi, je sais que je travaille énormément. alors je combine beaucoup.
Oui.
Je fais souvent plusieurs techniques suivant les besoins de la personne. Mais je suis très technique crânio-faciale. Donc c'est vraiment la partie au niveau de la tête et du visage.
Donc celle-là, c'est pas celle qui est la plus sollicitée.
Elle n'est pas sollicitée parce qu'elle n'est pas connue. Mais quand on va travailler, notamment en cabinet, on va proposer en fait aux personnes de lors du bilan de pouvoir travailler réguler un trouble, réguler un état émotionnel, qui doit être un petit peu stabilisé, etc. On va pouvoir le proposer. Donc après, les gens, quand ils viennent nous voir, ils sont pas fermés à... Voilà, en fait, ils vont se laisser un petit peu porter par ce qu'on va leur proposer. Après, ça va ou ça va pas, on s'adapte. Si besoin est, on change de technique. Moi, ça m'est déjà arrivé à l'association de commencer par une technique et puis finalement il y a trop de douleur sur cette zone-là et puis on passe sur une autre zone. Oui. On travaille tout aussi bien, parce qu'on va travailler, c'est la réflexologie, c'est vraiment une représentation en cartographie de nos organes, donc sur les pieds, sur les mains, sur la tête. Et effectivement, on va pouvoir travailler un organe ou une zone du corps tout autant sur le pied que sur la main, par exemple. Oui. Donc non, il n'y a pas de problématique sur cette partie-là. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que ça nous permet vraiment de nous adapter en fait.
Quand on les interroge sur l'intérêt d'un tel partenariat dans le cadre de fin de formation, Elodie et Victoria nous révèlent l'enrichissement qu'elles en ont tiré.
En quoi cette expérience a été enrichissante pour vous ?
Alors tout d'abord, elle m'a permis de sortir de chez moi. Donc, c'est sortir de son confort, je trouve, de rencontrer un public qu'on ne côtoie pas tout le temps et de se retrouver dans des conditions différentes que d'être dans un cabinet, partager au milieu d'un quartier avec des bénévoles, avec des personnes qui viennent découvrir. Donc je trouvais que déjà de sortir de ce confort, c'était déjà très enrichissant. D'avoir des personnes différentes, c'est enrichissant forcément, mais la plus-value, c'est de pouvoir s'adapter à chaque personne à un moment donné et que chaque moment soit différent pour eux. Parce que je suis venue 3 fois, donc j'ai pu rencontrer les mêmes personnes et je n'ai pas fait les mêmes... Je me suis adaptée à eux à chaque moment.
En quoi ça vous a enrichi, en fait, de cette diversité de profils, de personnalités ?
Le fait d'avoir des profils très variés,
oui,
m'a permis vraiment de pouvoir travailler sur des pieds, sur des mains. De pouvoir développer le toucher. Voilà. Et de pouvoir vraiment développer cette sensibilité-là au niveau du toucher. Et ça, ça a été vraiment très bénéfique pour la pratique. Hein. Vraiment, On a besoin de ça dans le cadre de notre formation, dans le cadre de notre début de profession. Sans avoir des profils variés, on reste vraiment cantonné à notre début de pratique. On n'est pas du tout à même de pouvoir aider les gens à se détendre, à réguler un corps. Et ça, vraiment, d'avoir eu l'opportunité de pouvoir pratiquer sur des profils vraiment variés et puis des profils qui en ont besoin, en fait. Besoin de bien-être, besoin qu'on s'occupe d'eux. Et ça, c'est vraiment... Au-delà de l'enrichissant, je trouve que c'est satisfaisant, en fait, pour un praticien, de pouvoir sentir qu'on fait du bien, en fait.
Pour le comité de quartier, comme pour les intervenantes, il est toujours très intéressant d'avoir le retour des adhérents qui ont pu bénéficier de ces séances. Victoria nous explique son point de vue.
J'ai pas eu encore potentiellement tous les retours, et c'est important d'avoir des retours pas à chaud, parce qu'on a, nous on a eu pas mal de retours juste après la séance.
Ouais.
Donc effectivement, à ce moment-là, on a des retours vraiment sur la partie je me suis détendue, j'étais bien, j'étais vraiment dans ma bulle, etc. Mais je serais assez intéressée d'avoir le retour des personnes sur quelques jours, en fait, après la séance. Voilà. Donc oui, il y a des personnes que j'ai pu revoir après d'une semaine à l'autre. Donc oui, il y a eu des au-delà de la relaxation, au-delà du bien-être, il y a eu des troubles qui ont été un petit peu amoindris, des douleurs qui sont un peu moins importantes sur des zones, sur des personnes qui avaient des troubles d'attent. Hein. C'est souvent, c'est pas des troubles qui sont récents. Donc c'est intéressant, ouais, d'avoir eu ces retours là.
Ouais.
Et je pense oui en émotionnel aussi. Je sais qu'il y a eu il y a des personnes qui ont été très réceptives sur la partie émotionnelle. Donc des choses qui sont ressorties. Mais là j'ai pas eu les retours à froid, on va dire, sur quelques jours, pour savoir ce qui a pu ressortir dans leur vie et comment ils l'ont reçu aussi.
Oui.
Parce que la plupart là venaient pas forcément pour ça, et je sais que ça peut perturber ou ça peut
interroger peut-être.
Ça peut interroger, ouais. Ça peut interroger sur des douleurs qui peuvent ressortir, parce qu'on a ce qu'on appelle les effets rebonds, hein, après une séance. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir un état qui peut alors il va pas se dégrader, mais vous allez potentiellement avoir des maux de tête, avoir des troubles digestifs qui sont un peu plus importants, et ça c'est le corps qui se régule, et c'est un très 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 important de l'accompagner et de l'accepter, en fait, pour que ça se régule et qu'après ça aille mieux.
Ce sont quand même des effets qui restent passagers, hein, qui ne perdurent
tout
pas. Quand même.
Ouais. Ah oui, c'est vraiment
passager. C'est important je pense que c'est important de le préciser. Voilà, que ça ne devient pas un état permanent, quoi.
Ah non, pas du tout. Bah, heureusement, sinon on servirait à quoi. Mais voilà, non, c'est que souvent on a en tête que la réflexologie ou d'autres pratiques manuelles de bien-être, c'est tout de suite. On est très habitué dans notre société à le tout de suite. Donc il faut que j'ai mal quelque part, vous me touchez, donc il faut que ça soulage tout de suite. Non, le corps, il a un temps d'adaptation, il a un temps de compréhension, et ça, on l'assimile très mal. Et en fait, on ne laisse pas au corps s'auto-réguler en fait. Et on ne laisse pas au corps l'information parce qu'on veut aller trop vite. Et ça, c'est très important de le souligner et puis de le remettre en avant. C'est que la réflexologie, notamment, on va vraiment aller instiguer des informations. Et donc, si vous ne laissez pas le corps le comprendre, le codifier, l'assimiler, ça va être très compliqué et finalement vous allez saboter en fait des effets qui vont être bénéfiques pour votre corps et pour la régulation d'un trouble en particulier.
Une opération réflexologique qui sera finalement un succès tant pour le comité de quartier que pour les adhérents et les intervenantes. Un grand merci à Inda Nadawi qui conclut par ces quelques mots.
On a des séances de relaxation faites par Samia Riyan. On a aussi des ateliers de préparation de produits ménagers. Nous avons après des conférences santé, un salon bien-être qui sera au mois de juin. Voilà, parce qu'on en fait deux dans l'année. Et pourquoi pas un troisième, je dirais spécialement que du bien-être. Et bien sûr, je vous inviterai.
Merci.
Allez, merci à Fred pour la réalisation de ce magnifique reportage. Voilà, moi, je l'ai suivi en dab, qui plus est. Voilà, donc, et puis on fait un petit clin d'œil amical, bien sûr, à toute l'équipe du comité de quartier Ariane Sarrière, ainsi qu'à toutes les praticiennes et pas très praticiens avec Fred. Voilà, petit coucou. Voilà, puis tous les intervenants. Allez, il me reste juste quelques instants. On va se quitter en musique. Mais là, je vais vous donner juste deux, trois infos sur l'agenda et on se quittera en musique avant de retrouver le magazine juridique et social. Voilà, donc là, quand on va écouter la belle pause musicale prévue, je vous reparlerai du concert de sortie 13 de demain, mais on va rappeler qu'en ce samedi 7 mars, eh bien, il faudra faire des choix, bien sûr, car il y aura, entre autres, eh bien, cette belle soirée également à la salle Simone, salle Simone Veil, voilà, pardon pour le lapsus que j'allais commettre, à Sauveterre de Guyenne, donc ce samedi, où vous aurez d'abord des groupes locaux, un bel ancrage local avec les groupes SKF et Left Corner. Los Tres Puntos, voilà, dans le cadre de la tournée des 30 ans, donc sera la tête d'affiche. Et pour clôturer demain à Sauveterre de Guyenne, il y aura également Upfall Sound. Voilà, un set dub digital. Et Christophe nous l'a dévoilé, un des organisateurs. Eh bien, il y aura la section de cuivre de Los Tres Puntos qui va se joindre voilà, ce set dub. Donc, un grand moment. Hein. On va le rappeler, le titre de ce punky reggae party. Voilà un petit clin d'œil là également à Bob Marley. Allez, deux, trois infos et puis on va en rester là. En ce vendredi 6 mars, voilà, vous avez un concert d'Héral Besson et Lionel Suarez. Voilà, c'est un concert proposé par Musique de Nuit, le Rocher de Palmer. Concert hors les murs. Rendez-vous ce vendredi soir au Cuvier de Fédot, Artigues, près Bordeaux, à partir de 20h30. Mais sur le site lerocherdepalmer.fr, bien sûr, toutes les bonnes infos. Vous aurez en ce vendredi à l'espace Simone Signoret à ce nom Amour et PowerPoint, Princesse Amour et PowerPoint, voilà que j'écorche pas le nom du spectacle, donc là également en plus d'infos via les sites internet. En ce vendredi je pourrais vous parler également du concert de Bertrand Belin, mais il affiche complet à la salle 1200 du Rocher. Vous aurez ce vendredi également un deuxième concert, je suis presque tenté de dire c'est tant mieux, voilà, quand les artistes rencontrent leur public, et Suzanne Vega, voilà, qui sera dans la salle 650, et bien ce concert affiche également complet, et on va en rester là, voilà, pour pas trop déborder. Quelques infos sur cette partie à agenda. Allez, je remercie Elliot à la régie technique, je remercie Fred pour la réalisation de ce reportage que vous venez d'écouter à l'instant. Lundi, bien, Ethan, Romain et Hugo seront nos invités. On parlera d'une nouvelle émission qui est apparue sur la grille de radio 600 degrés. Voilà, c'est bien d'en dire quelques mots, bien sûr. Voilà, le magazine juridique et social, défendez-vous, droit disciplinaire en droit du travail en entreprise. Ça, c'est ce qui va suivre juste après, voilà, un extrait de Mirabel, voilà, Mental Shakedown, je ne sais pas si j'ai bien prononcé Elliot, mais ça va, on est complices, donc tout va bien. Voilà, ce sera un concert pour Mirabel, hein. Si vous êtes des fidèles d'Odo Radio, vous avez dû voir les partages, on avait pu recevoir Tom de Don't Think Twice pour une belle session live. On fait un petit coucou à Laurent et toute l'équipe des enfants du live qui organise, et Mirabel va partager la scène, voilà, le groupe parisien avec deux groupes bordelais, Fastlane et Don't Think Twice. Et Mirabel, et ben, si vous ne connaissez pas, c'est par exemple ceci.
Magazine juridique et social, défendez-vous, présenté par Maître Paul Cesseau.
Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Odo Radio pour votre magazine du vendredi midi, défendez-vous. Et cette semaine, nous allons faire un petit topo sur le droit disciplinaire. Autant que le temps qui nous est accordé nous le permet. Quand je dis droit disciplinaire, c'est droit disciplinaire en droit du travail, c'est-à-dire au sein de l'entreprise. Puisque on sait que l'employeur a un pouvoir disciplinaire qui lui permet de sanctionner les faits qu'il considère comme fautifs ou qui sont fautifs au sein de l'entreprise. Alors, quand on parle de droit disciplinaire, c'est cela peut aller de la sanction simple, l'avertissement, jusqu'au licenciement. On verra tout à l'heure un petit peu les différentes sanctions et surtout la définition de la sanction disciplinaire. Mais bon, au point de départ, il faut qu'il existe une faute. Une faute qui justifie le licenciement. Donc il y a différentes règles ici à respecter, sachant d'abord que la faute doit être imputable au salarié. J'aborde régulièrement des décisions de la Cour de cassation sur ces problématiques. La faute est imputable au salarié, donc on ne peut pas être licencié pour des faits qui sont commis par, par quelqu'un d'autre. On ne peut pas être licencié non plus pour des faits qui relèvent de la vie privée. Et il faut donc que ce soit imputable au salarié et que cela... que ce soit dans le cadre professionnel. Alors, on a vu au gré des différentes décisions de la Cour de cassation que je commente tout au long des émissions que il pouvait y avoir des appréciations avec des limites, des frontières parfois un petit peu floues, voire poreuses. Mais les principes existent et dans la plupart des cas, il n'y a pas de difficulté pour déterminer si le motif est imputable ou pas au salarié. Il ne peut pas y avoir de sanction non plus pour des motifs prohibés, donc il n'y a pas de faute. Par exemple, une sanction qui serait fondée sur une discrimination, sur une violation de liberté du salarié. J'avais évoqué récemment, en début d'année, la question de la liberté d'expression des salariés dans l'entreprise et de sa limitation. Impossibilité non plus de licencier pour un refus de pour une opposition à du harcèlement. Nous avons là des motifs prohibés de sanctions qui ne seront. Donc ça ne servira pas de faute. Donc après, on va distinguer, on va dire, la faute simple. Qui présente elle va nécessairement se graduer dans la mesure où cette faute simple peut aller jusqu'à constituer quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais peut ne justifier le cas échéant qu'un avertissement. Pour prendre la sanction qu'on va considérer comme étant la moins élevée et la sanction une sanction qui est importante, qui est donc la rupture du contrat de travail. Mais bon, c'est pour la distinguer des autres fautes graves et lourdes qui, elles, existent dans le cadre du licenciement. Puisque ce que je dis vaut pour les sanctions disciplinaires, donc ça peut valoir aussi pour le licenciement, tout licenciement n'étant pas nécessairement disciplinaire, puisqu'il peut y avoir un motif économique par exemple, comme il peut y avoir un licenciement pour inaptitude qui n'ont donc pas de motif disciplinaire. Donc la faute qui est qualifiée de simple, mais qui peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre de la procédure, dans le cadre d'un licenciement. Après, on a la faute grave et qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui sont imputables au salarié, comme je l'ai déjà indiqué, qui constitue une violation des obligations du contrat de travail. D'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Alors là, la conséquence va être le licenciement, donc à partir du moment où l'employeur retient une faute grave, ça va être le licenciement avec pour conséquence la privation de l'indemnité de licenciement auquel le salarié a droit quand il y a un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et la privation de l'indemnité et la privation du préavis. Donc il faut distinguer la privation du préavis avec la dispense de préavis qui peut exister dans un licenciement pour faute simple, pour cause réelle et sérieuse, il peut y avoir une dispense de préavis. Là, le préavis n'est pas effectué mais réglé, tandis que dans le cadre de la faute grave, il n'y a pas de préavis, donc le préavis n'est pas effectué et n'est pas réglé. Il y a pour autant quand même droit à l'indemnité de retour à l'emploi, donc à la prise en charge par le chômage, contrairement à une idée reçue. La preuve, quand on est devant le conseil de prud'homme, j'empiète un peu sur ce que j'aurai à dire plus tard, la preuve incombe ici à l'employeur. Et nous avons au-dessus la faute lourde. La faute lourde est une faute d'une particulière gravité qui révèle l'intention de nuire de la part du salarié. L'intention de nuire, c'est même pas seulement une faute intentionnelle, c'est une faute avec intention de nuire. Par exemple, le salarié qui va détruire les disques durs de l'entreprise dans le but que celle-ci ne puisse plus travailler parce que tout était sur les disques durs des ordinateurs. Par exemple, après tout est aussi une question de circonstances. Mais il faut une intention de nuire. La conséquence est que le salarié est encore privé du préavis, pas d'indemnité de licenciement. Autrefois, parce que c'était jusqu'à une dizaine d'années, ou jusqu'à 10 ans, 2016 de mémoire, une décision du Conseil constitutionnel qui est venue mettre fin à un régime qui existait antérieurement. La faute lourde avait pour effet à l'époque de priver le salarié également de l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire que vous étiez en avril, donc à la fin de la période d'acquisition des congés payés, vous perdiez l'indemnité de congés payés. Donc, ce qui pouvait être une sanction, une conséquence supplémentaire qui pouvait être particulièrement lourde. Maintenant, ce n'est plus le cas. La différence du coup entre la faute grave et la faute lourde est que la faute lourde peut permettre éventuellement à l'employeur de faire jouer la responsabilité civile, d'engager la responsabilité civile du salarié et donc d'obtenir réparation, tandis que la faute grave ne le permet pas, même intentionnel, puisqu'on a vu que il faut que la faute lourde est une intention de nuire. Le caractère intentionnel n'est pas en soi suffisant. Alors ensuite, quelles sont les sanctions ? Alors, les sanctions, en fait, vous avez une définition qui est donnée par l'article L1331-1 pour les curieux du Code du travail, qui nous indique donc que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié, considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Donc, en fait, ça va être indépendant de la mention qui peut figurer dans la lettre que l'on reçoit. Bon, si on reçoit une lettre en disant « je vous adresse une sanction disciplinaire, enfin, vous êtes licencié », bon, voilà, ça va être une sanction disciplinaire, mais vous pouvez avoir des lettres qui ne mentionnent pas expressément « sanction disciplinaire », mais qui peuvent quand même être considérés comme étant des sanctions disciplinaires à partir du moment où on a une mesure qui est prise par l'employeur à la suite d'un agissement qu'il considère comme fautif et qui est de nature à affecter immédiatement ou non, mais en tout cas de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une lettre de reproche en substance et qu'il en ressorte qu'il y aura une implication sur la présence du salarié dans l'entreprise à terme ou pas. C'est-à-dire que s'il est mentionné que nous vous invitons à ne pas reproduire les faits ou plus clairement encore, cela sera mentionné à votre dossier disciplinaire, cela peut suffire pour caractériser l'existence d'une sanction disciplinaire. Alors là, il peut y avoir des débats sur ces questions-là pour savoir si oui ou non il y a une sanction disciplinaire. Certaines sanctions sont interdites, des sanctions pécuniaires, les amendes et les sanctions pécuniaires sont interdites formellement. Donc là, la sanction est immédiatement annulée. Alors, ça peut être tout ce qui va avoir un caractère pécuniaire, donc les retenues pour mauvaise exécution du travail, des réductions et suppressions de gratifications qui sont en lien avec des fautes reprochées aux salariés, une retenue sur salaire. En rapport par exemple avec l'utilisation d'un téléphone professionnel, la suppression illicite d'un avantage en nature, tout ce qui est directement ou indirectement, directement, une sanction disciplinaire, une retenue sur salaire, on va dire, ou sous une forme d'amende. Mais il y a l'illicité de la sanction disciplinaire particulière qui est la mise à pied disciplinaire, puisque le travail ne va pas être exécuté, la contrepartie du travail et le salaire. Et donc là, il est légal de prononcer une mise à pied disciplinaire, même si elle a, du coup, indirectement, une incidence sur la rémunération. Qu'est-ce qui peut être prononcé comme sanction? On va avoir, classiquement, avertissement, blâme, parfois avec une notion d'inscription, sans inscription au dossier, mise à pied disciplinaire, donc dont je viens de parler, qu'il ne faut pas confondre avec la mise à pied conservatoire. La mise à pied conservatoire et la période pendant laquelle, avant le prononcé de la sanction, l'employeur va décider que le salarié va faire l'objet d'une mise à pied conservatoire. Le sort de cette du paiement de cette mise à pied dépendant de ce qui se passera après, c'est-à-dire soit, donc là c'est pendant le cadre de la procédure de licenciement, mise à pied de la procédure disciplinaire, mise à pied conservatoire, le salarié, soit il y aura un licenciement pour faute grave, à ce moment-là une mise à pied conservatoire ne sera pas réglée, soit il n'y aura pas de licenciement pour faute grave, à ce moment-là, la mise à pied sera réglée quand bien même le salarié n'ait pas travaillé puisque c'était du fait de l'employeur. Mais donc il ne faut pas confondre mise à pied disciplinaire, mise à pied conservatoire. La sanction peut être donc le licenciement, licenciement simple pour cause réelle et sérieuse, licenciement pour faute grave, licenciement pour faute lourde, évoqué tout à l'heure. Deux points évoquer encore, la question de la prescription des faits, la question des prescriptions. Prescription des faits, la prescription est de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, alors dans les petites entreprises c'est simple, dans les entreprises plus grandes, on va considérer que ça va être le supérieur hiérarchique direct à partir du moment où celui-ci a eu connaissance des faits. Donc ils sont considérés comme étant connus par l'employeur qui alors a 2 mois pour engager la procédure de licenciement. Il ne peut pas engager la procédure de licenciement postérieurement. Alors il peut y avoir suspension de cette prescription. Par exemple, en cas de procédure pénale. Le fait que le salarié soit malade ne suspend pas cette prescription, ni même a été jugé, de l'incarcération du salarié. Donc majoritairement il n'y a pas de suspension de cette prescription. Donc l'employeur doit agir rapidement à partir du moment où il a eu connaissance des faits. Et c'est quand même une connaissance complète. Il y a également une prescription de la sanction. La sanction, donc là, c'est-à-dire la sanction une fois prononcée. donc va se prescrire au bout de 3 ans, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être invoquée à l'appui de nouvelles sanctions. Alors attention, faut pas confondre cette question-là et la question de la règle non bis in idem, c'est-à-dire de l'impossibilité de sanctionner deux fois les mêmes faits. On ne peut pas sanctionner deux fois les mêmes faits. On peut sanctionner des faits similaires successifs. Mais par exemple, quelqu'un qui commet une faute le 20 février 2026 et qui est sanctionné pour cette faute-là ne pourra pas être sanctionné à nouveau ultérieurement pour ces faits-là. Par contre, les mêmes faits qui ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire peuvent venir à l'appui de la gravité de la sanction prononcée en conséquence de faits nouveaux et qui ont été commis. Donc on voit là la différence. Donc c'est là que s'inscrit la question de la prescription de la sanction. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, l'échelle des sanctions doit être prévue dans le règlement intérieur et on doit se tenir à l'échelle des sanctions qui est prévue dans le règlement intérieur. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la procédure, alors on va distinguer les sanctions les moins importantes avec des sanctions plus graves. En rappelant que quand il y a une période d'essai, quand on est dans la période d'essai, l'employeur peut rompre le contrat. Pour autant, s'il invoque un motif disciplinaire, il faut qu'il respecte la procédure disciplinaire. Mais hors période d'essai, il faut respecter la procédure disciplinaire. La procédure pour les sanctions mineures, c'est-à-dire pour l'avertissement, il n'y a pas d'entretien préalable obligatoire. Par contre, pour le blâme, pour les autres, il va falloir qu'il y ait un entretien préalable, c'est-à-dire que le salarié est convoqué un entretien préalable avec. Donc c'est une convocation écrite qui mentionne l'objet de l'entretien, c'est-à-dire que quand en fait l'employeur envisage d'aller jusqu'au licenciement, il doit mettre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Donc il mentionne donc la date, l'heure et le lieu de l'entretien et la possibilité pour le salarié d'être assisté. Alors il est quand même toujours bien lors de l'entretien préalable d'être assisté dans les cas où dans les cas où on est convoqué pour éviter à titre probatoire et puis pour éviter aussi pour apaiser peut-être un peu les choses et le contenu de l'entretien et puis pour avoir récupéré ensuite une attestation de ce qu'il se passe. Pourquoi ? Parce que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne doit pas prendre de décision. Il doit exposer les faits, le salarié répond, et ensuite l'employeur prendra sa décision. C'est là qu'on a deux délais qui vont courir. Suite à l'entretien préalable, l'employeur ne peut pas prendre des décisions avant un délai de 2 jours ouvrables au minimum après l'entretien préalable. Ce qui constitue au final un délai de réflexion, et l'employeur ne peut pas envoyer la lettre de sanction plus d'un mois après le jour de l'entretien, quelle que soit la sanction, même si c'est un licenciement. Ça c'est une règle quand même de fond. La sanction disciplinaire étant considérée comme étant infondée si cette règle n'est pas respectée, sachant que d'une manière générale on considérera qu'il n'y a pas de suspension même si le salarié était absent à l'entretien préalable au licenciement. Étant précisé que quelquefois, il y a des conventions collectives qui prévoient des procédures particulières qui se surajoutent, par exemple la convocation devant un conseil de discipline, qui se surajoute à la procédure légale, et dans ce, à ce moment-là, ce délai-là sera suspendu pendant le cours de cette procédure conventionnelle. Donc voilà, et donc ensuite l'employeur va envoyer une lettre de sanction. Alors, la lettre de sanction doit être motivée et elle doit mentionner les motifs de la sanction, qui plus est si c'est un licenciement, et nous indiquer la sanction qui est prononcée évidemment, mais pourquoi. Ensuite, cette sanction peut être soumise, alors quand on conteste, bon, si on conteste pas, on conteste pas, mais si on conteste, en tout cas si on n'est pas d'accord, il est toujours judicieux d'envoyer une lettre de contestation, plus ou moins longue selon le cas, et peut-être de commencer à se faire assister à ce moment-là, en tout cas, dès que ça vaut le coup, dès que la sanction est importante, par exemple pour le licenciement, mais c'est bien après, quand on revient devant le conseil de prud'homme, qu'il y a eu une contestation qui était faite par le salarié par courrier, en disant « vous m'avez adressé telle sanction, je ne suis pas d'accord pour telle raison, car par exemple je n'ai pas commis les faits que vous me reprochez ». C'est toujours bien lorsqu'on arrive ensuite devant le conseil de prud'homme qu'il y ait une contestation du salarié au préalable, même si ce n'est absolument pas obligatoire. Donc le contrôle juridictionnel se fait devant le conseil de prud'homme. La procédure classique, on passe par la tentative de conciliation et puis le jugement au fond. On a déjà fait quelques émissions sur le sujet, sur la procédure devant le conseil de prud'homme. Le dit conseil de prud'homme, qui apprécie donc la régularité de la procédure, mais qui procède aussi à un contrôle au fond, donc qui vérifie si les faits reprochés aux salariés sont de nature à justifier une sanction. Niveau probatoire, le code du travail nous dit que l'employeur fournit au conseil de prud'homme les éléments retenus pour prendre la sanction, et que le conseil de prud'homme se prononce au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ces allégations. Le conseil formant sa conviction au vu de l'ensemble de ces éléments et éventuellement en ordonnant toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Donc c'est des... Ça peut être des expertises, ça peut être des auditions des parties, ça peut être des déplacements sur les lieux. Alors, pour être honnête, il y a longtemps que je n'ai pas vu de déplacement sur les lieux ou d'audition de témoins devant le conseil de prud'homme, mais cela existe et une vingtaine d'années, ça m'arrivait, il m'arrivait régulièrement d'y aller. On se déplaçait dans l'entreprise ou on faisait le conseil de prud'homme convoquer toutes les personnes qui avaient fait des témoignages, ce qui n'est pas inintéressant, malgré le temps que cela engage, n'était pas inintéressant, car on se rend compte quand même de la différence qu'il peut y avoir entre témoignage écrit et puis un témoignage verbal, et qui peut varier, les deux pouvant varier considérablement. Certains témoins d'ailleurs ne se présentant pas. C'est possible, mais ça ne se fait plus trop, et le texte nous précise que si un doute subsiste, il faut aussi profiter aux salariés. Ça joue donc également pour le licenciement. Je l'ai dit tout à l'heure, en matière de faute grave, la charge de la preuve va incomber, donc faute lourde va incomber à l'employeur. Ensuite, en conséquence, le conseil de prud'homme, et donc le conseil de prud'homme aussi vérifier la proportionnalité de la faute par rapport à la sanction par rapport à la faute. Donc tout va dépendre de beaucoup de circonstances. Donc quelles sont les décisions que peut prendre le conseil de prud'homme? Il peut dire procédure irrégulière, il peut dire sanction disproportionnée, il peut dire sanction nulle, comme je l'ai indiqué, par exemple pour un motif prohibé ou illégal. Il peut dire que absence de cause réelle et sérieuse, absence de faute grave, s'il y a un licenciement pour faute grave, et donc là en ce moment-là, en requalifiant le licenciement de faute grave en cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne le paiement de l'indemnité de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, si tant est que le salarié puisse y avoir droit. Alors,
la petite spécificité, si il y a un vice de forme, dans l'absolu, l'employeur pourrait reprendre la procédure. La difficulté, c'est que il reste tenu par les prescriptions et que le temps que tout se passe devant le conseil de prud'homme, il y a des prescriptions qui ont déjà couru, donc cela reste assez aléatoire à mettre en œuvre. Voilà. Sur ce, sans avoir été totalement exhaustif, la majorité des points ont été abordés, qui permet de voir un petit peu comment ça se passe en matière disciplinaire. Bon, de manière générale, il convient vraisemblablement de se faire conseiller quand une procédure est engagée et pour la suite également lorsqu'on veut aller jusqu'à la contestation de la sanction qui a été prononcée. Voilà, sur ce, bon week-end à tout le monde et à très bientôt.